Donc, pour cette deuxième partie du cours, donc je vais vous proposer une présentation en fait du programme en réalité qui a été lancé à travers cet ouvrage, donc à l'épreuve de l'expérience pour une pratique phénoménologique. Un programme qui s'est attaché en fait à tenter de produire, on peut le dire rétrospectivement, un tournant pratique pour la phénoménologie, le tournant pratique de la phénoménologie. Donc je vous ai envoyé aussi le compte-rendu qui a été fait de cet ouvrage par Adrien Simon, donc quelqu'un qui est maintenant post-doc, en fait, qui a fait sa thèse sous ma direction il y a déjà quelques années, qui avait d'ailleurs bénéficié d'un contrat doctoral à l'époque, donc qui a fait un beau travail justement sur la relation entre phénoménologie et pratique. Et qui a fait ce compte-rendu, donc je ne vais pas reprendre le compte-rendu, hein, je vous laisse le lire, vous l'avez peut-être déjà lu. Et voilà, donc je suis en train juste de vérifier quelque chose. Ah oui, c'est ça, c'est bon, l'enregistrement, je n'étais pas tout à fait sûre que c'était en train de marcher. Donc ce compte-rendu, on va quand même prendre aussi un peu appui dessus, puisque vous avez vu dans le compte-rendu qu'il y a un certain nombre de schémas que Adrien Simon a repris de l'ouvrage directement. Hein. Donc, évidemment, ils sont dans l'ouvrage, hein, ces schémas, mais ça vous permettait de les avoir aussi sous les yeux plus facilement que, j'imagine que l'ouvrage, vous ne l'avez pas. Donc, éventuellement, je pense qu'il est accessible par l'éditeur sous format PDF, hein, donc un tarif qui doit être relativement succinct si ça vous intéresse. C'est facile de l'avoir en PDF par le biais de Zeta Books, hein, par le biais de l'éditeur Zeta Books. Mais donc, on va aussi prendre appui sur ce compte-rendu pour... je vous proposerai d'avoir les schémas sous les yeux. Ce sera plus simple aussi pour avancer dans la présentation de ce travail de phénoménologie pratique. Alors, ça nous intéresse directement, cette étape numéro 2, ce que j'appelle l'étape numéro 2 de la phénoménologie, à savoir une phénoménologie tournée vers la pratique, dans la mesure où c'est dans cette perspective-là, évidemment, qu'un travail de mise en relation avec des disciplines empiriques et des disciplines expérimentales peut se faire de façon beaucoup plus juste et beaucoup plus rapprochée que si on a simplement affaire à des textes de phénoménologie qui décrivent des structures d'expérience, hein, qui décrivent des expériences en général, hein, mais qui ne sont pas assumées de l'intérieur par un sujet singulier effectuant lui-même ces expériences. Donc évidemment, cette deuxième phase de la phénoménologie, tournée vers la pratique, est une phase qui... se déploie dans un double mouvement par rapport à la phénoménologie historique. Je nomme phénoménologie historique, hein, les trois auteurs que j'ai convoqués au tout début dans la première séance, Husserl, Heidegger et Merleau-Ponty essentiellement. Mais ça vaudrait aussi pour les auteurs suivants, même s'ils ne sont pas directement convoqués ici. Hein, ça vaudrait également pour Lévinas, Emmanuel Lévinas, Michel Henry et même Jean-Luc Marion ou Derrida. Dans la mesure où c'est le même type de travail phénoménologique qui est fait par ces auteurs que les premiers, à savoir un travail de référence à l'expérience médiée par la description disponible dans des textes et qui rend compte de structures d'expérience plutôt que d'expériences singulières. Donc dans la phénoménologie dite historique, il y a une sorte de méfiance récurrente à l'égard de l'empirisme, et à l'égard d'une conception individuelle, singulière de l'expérience, et le souci de décrire des structures d'expérience, donc de décrire quelque chose que Husserl a nommé des essences, des invariants, et que les auteurs ultérieurs vont également, à leur manière, nommer des structures. Heidegger nomme des existentiaux, donc des réalités globales de mon existence. Merleau-Ponty, à sa manière, avec un point de vue très ontologique, va dégager finalement des êtres, hein, il va parler même d'êtres sauvages, dans Le visible et l'invisible, plus tard, dans son dernier grand texte. Donc on a une sorte de positionnement philosophique assez haut niveau de la phénoménologie, soit transcendantale chez Husserl, soit ontologique chez Heidegger et Merleau-Ponty, qui du coup peut paraître paradoxal par rapport à une exigence qui est une exigence, comme on l'a dit, déjà de retour aux choses elles-mêmes, donc de retour à l'expérience. C'est sur la base de ce paradoxe, qui est le paradoxe, à mon avis, constitutif de la phénoménologie dans son histoire, que j'ai, avec mes collègues scientifiques, donc Francisco Varela et Pierre Vermersch, donc Francisco Varela, neurobiologiste, Pierre Vermersch, psychologue, c'est donc sur la base de ce constat et de ma propre intuition aussi initiale que nous avons mis en place ce tournant pratique de la phénoménologie en considérant qu'en fait, le but de ce tournant, c'est de revenir à l'exigence initiale et de rendre une cohérence finalement au projet phénoménologique, de la refaire, de la ramener à elle-même et à son exigence première, plutôt que de la déporter du côté d'une exigence philosophique haut niveau, mais qui du coup fait perdre de vue la relation à l'expérience dans sa concrétude et dans la singularité même des vécus à décrire. Donc c'est ce projet-là qui est en jeu et qui donc a donné lieu à ce travail collaboratif à trois, qui s'est déployé donc en termes de genèse, simplement pour vous donner quelques éléments de contexte, qui s'est déployé donc dans les années 1995-2001, durant 5-6 années. Donc un travail qui a été mené à trois et sous la forme de beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, qui nous a permis de faire se rencontrer à travers nous trois disciplines distinctes, à savoir la philosophie, la phénoménologie, donc qui était mon champ de départ, d'appartenance, la psychologie, dans sa dimension davantage introspective d'ailleurs que expérimentale, avec Pierre Vermersch, et la biologie et la neurobiologie et les sciences cognitives plus largement avec Francisco Varela. Donc d'une certaine manière ce programme de phénoménologie pratique, eh bien il est la résultante d'un brainstorming, on pourrait dire, interdisciplinaire, qui d'une certaine façon a fait émerger, on pourrait dire, quelque chose de plus complexe que ce qui était donné initialement. Donc vous voyez, là je mets en scène un peu en abîme, en méta, le projet du connexionnisme ou le projet des théories de l'émergence, en le resituant à travers ce travail interdisciplinaire, et d'ailleurs Bastien a deux reprises à propos de la cybernétique initialement et à propos du projet de Varela a bien indiqué justement la vertu de l'interdisciplinarité, hein, donc la façon dont les relations entre disciplines deviennent vectrices de sens, et les contenus disciplinaires, eh bien, en réalité, sont un peu débordés, dépassés, ou en tout cas se trouvent mis en mouvement en direction d'une complexité qui va les dépasser. Donc en fait, ce livre, On Becoming Aware, ou bien L'épreuve d'expérience, c'est un peu d'une certaine manière, c'est un peu il est emblématique de ce processus dans le mouvement même de son émergence en tant que livre, en tant que travail collaboratif, puisqu'en fait, il a fait émerger une théorie qui nous a tous les trois dépassés. Au fond, aucun de nous trois n'a vraiment été à aucun moment, ni après coup, ni pendant, en position de surplomb par rapport à ce travail, à ce processus. Et donc on est vraiment dans un schéma totalement émergent et connexionniste, on pourrait dire. Donc on a fait émerger quelque chose qui n'était pas prévu au départ et qui, d'une certaine manière, nous a tous les trois dépassés. Donc ce qui a émergé, pour le dire d'un mot, c'est une certaine théorie de la conscience. On pourrait dire que ce qui est en jeu dans ce livre, pour le dire de façon assez large encore, c'est une théorie de la conscience. Une théorie de la conscience pensée à partir de sa dynamique d'émergence, que en français on pourrait nommer sous une expression assez standard, sous le terme de prise de conscience. Mais le terme prise de conscience, il est un tout petit peu gênant, Il se trouve utilisé beaucoup par un des auteurs référents de Pierre Vermersch, qui est le psychologue suisse Jean Piaget. Jean Piaget a élaboré une théorie de la prise de conscience dans ses ouvrages, qui est tout à fait intéressante. Donc Jean Piaget, auteur, un psychologue suisse qui est relié au courant qu'on appelle le constructivisme, dans lequel se trouve aussi situé d'ailleurs Francisco Varela. Donc une conception assez large de la connaissance et de la cognition, aussi partagée en sciences sociales, qui met en avant justement le fait que la réalité est construite, elle n'est pas donnée, donc qui s'oppose à une forme de naturalisme, de ce point de vue-là. Et donc le terme de prise de conscience, il est tout à fait central chez Jean Piaget, mais il décrit quelque chose qui est de l'ordre, dans la terminologie elle-même, dans l'expression elle-même, il décrit quelque chose qui est davantage de l'ordre de la maîtrise, hein, prise de conscience, donc une forme de maîtrise d'une part, et une forme de réalité un peu instantanée, d'un moment où tout d'un coup je deviens conscient de quelque chose dont je n'étais pas conscient. Donc le terme prise de conscience, il est un peu gênant parce qu'il est trop statique et il est trop instantanéiste. En fait, il décrit un état, même si on a l'impression que c'est un processus parce qu'il y a le terme prise, ça vient du verbe prendre, mais le verbe prendre lui-même, il désigne une maîtrise, il désigne une prise de contrôle, d'une part, et il désigne en fait un état. C'est pris, vous voyez. Ça a déjà eu lieu, c'est un résultat. Donc le terme prise de conscience, on ne l'a pas utilisé, en fait, on a tourné autour pendant tout un temps, et puis finalement, on n'a pas choisi de l'utiliser parce qu'il n'était pas pour nous assez dynamique, assez processuel. Et en fait, si vous regardez le titre anglais de l'ouvrage, « On Becoming Aware », hein, « On Becoming Aware », ça décrit vraiment un processus, on pourrait le traduire littéralement par « en devenant conscient », hein, « On Becoming Aware », en devenant conscient, donc « awareness », c'est un autre terme en anglais pour dire « consciousness », pour dire « conscience », ça désigne plus un rapport au temps, hein, puisque dans « awareness », on a la racine « aware » en anglais, qui signifie le rapport à la présence, et on a le préfixe « a » qui signifie l'amorçage, hein, d'un certain point de vue. Donc le titre anglais, il est tout à fait emblématique de ce que nous avons essayé de décrire comme théorie de la conscience, comme une théorie donc dynamique, émergente, et après c'était très difficile de le rendre en français, et donc en fait le titre français ne contient pas le terme « conscience », mais a préféré le terme « expérience » et « épreuve », justement pour rendre compte davantage de quelque chose, d'un processus qui nous échappe, d'un processus dont on n'a pas la maîtrise, et auquel on est davantage finalement réceptif plutôt qu'on ne le contrôle. Donc cette théorie de la conscience, une théorie donc à la fois pratique et dynamique, elle s'est déployée en fait dans ce qui correspond dans l'ouvrage à la deuxième partie. Attendez, je ne me trompe pas parce qu'on a eu plusieurs. Je vérifie. Non, elle correspond à la première partie, excusez-moi, qui s'intitule justement Dynamique structurelle de la prise de conscience. Donc là, on a en français gardé le terme prise de conscience, hein, mais en anglais c'est On Becoming Aware. Mais c'est une dynamique structurelle avec un certain nombre de gestes et un certain nombre d'étapes, de phases qui décrivent justement cette dynamique. Et puis ensuite, on a une deuxième partie. De façon plus généalogique, montre d'où vient en fait cette théorie, depuis quel champ disciplinaire on peut la restituer. Donc en réalité, ensuite, on a un certain nombre de chapitres qui font droit aux sciences cognitives, à la psychologie, à un certain nombre de références à la pratique dans l'histoire, des théories de la pratique dans l'histoire, qu'il s'agisse du pragmatisme ou par exemple du marxisme, qui fait droit aux enjeux philosophiques, donc phénoménologiques, et qui fait droit aussi à un certain nombre de référentiels issus de traditions religieuses ou spirituelles, notamment le bouddhisme, qui était donc le champ de départ aussi en termes personnels de Varela, et la prière du cœur, l'orthodoxie, qui était plutôt mon terrain de référence, qui permettent donc de restituer des référentiels matriciel, si vous voulez, à partir duquel cette théorie de la conscience, pensée de manière plus large, a pu se déployer. Donc ça, c'est pour décrire la structure générale du projet. Donc vous voyez, c'est une sorte de, C'est une théorie très ambitieuse, enfin, c'est un ouvrage, c'est tout un programme de recherche, mais qui permet justement de rendre compte d'une autre façon de se relier à l'expérience, une façon plus dynamique, plus pratique, plus concrète, et qui élabore à partir de là un modèle, un petit modèle, sur lequel on va se pencher à présent, si vous voulez, qu'on a nommé en réalité le cycle de base. Donc on trouve cela dans le livre au chapitre 1. Hein. Chapitre 1, donc ça correspond en fait à un chapitre qui est assez long, hein, qui va de la page 33 à la page 100 à peu près, donc un peu plus de 60 pages. Et qui en fait, en son deuxième temps, décrit justement ce modèle de la manière la plus condensée. Donc vous l'avez dans le compte-rendu de Adrien, que je vais reprendre moi aussi. Ce sera plus simple pour me situer exactement au même endroit que vous. Dans le livre, ça se situe à partir de la page 47, grosso modo. Je vérifie que c'est bien là que se trouve le schéma. J'ai un petit doute. Ah oui, il est là. Donc ça se trouve à la page, donc dans le deuxième temps de ce chapitre 1, qui s'intitule « Époqué ». Donc je vais revenir évidemment sur le choix de ce terme. Vous avez ce schéma qui se trouve en fait à la page 73, donc juste à la fin en fait de ce deuxième temps qui s'intitule « Époqué ». Donc vous l'avez dans le compte-rendu. Hein. Dans le livre, donc à la page 73, ça se trouve dans un alinéa qui s'intitule « Devenir conscient ». La structure de base. Et donc je voudrais en fait plonger assez directement maintenant dans ce petit modèle. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ? Parce que c'est quand même plus intéressant si vous pouvez vous y reporter et si on est bien en train de visualiser la même chose les uns et les autres. Donc si vous pouvez reprendre le compte-rendu d'Adrien. Vous allez l'avoir sous les yeux. Vérifiez que vous l'avez bien. Alors, ce schéma, hein, vous voyez, il est constitué de trois ovales donc, qui portent pour titre Époqué. Donc, Époqué, c'est le titre générique de ce modèle de base. Et puis, donc, il est fait de trois ovales qui portent chacun un nom, Suspension, rediriger ou redirection et lâcher, accueillir ou lâcher prise. Donc accueillir ou ici, donc c'est le terme accueillir, mais ça pourrait être aussi une autre façon, lâcher prise. Donc on a trois actions en fait, hein, qui sont ici notées. Suspendre, rediriger, accueillir, ce sont trois verbes. En fait, le premier c'est suspendre, c'est pas le substantif, enfin, ça revient un peu au même, mais en tout cas on l'a nommé sous la forme verbale, c'est-à-dire sous la forme de processus, hein, d'action qu'on opère, en réalité, d'opération qu'on réalise. Et ça c'est très significatif parce que l'idée c'est de montrer qu'on a vraiment affaire non pas à des états internes, mais à des actions, hein, d'où la dimension pratique qui est en jeu ici. Et donc ces trois processus ou ces trois actions correspondent également à ce qu'on a nommé des gestes attentionnels. Des gestes attentionnels, c'est-à-dire en fait des manières de faire quelque chose en étant attentif à ce que l'on fait. Hein, donc ça met en évidence une relation interne entre l'action et l'attention. Entre l'action et l'attention. C'est-à-dire entre le comportement, quelque chose qu'on fait, donc quelque chose qui est visible de l'extérieur, et l'attention, qui est une disposition, une manière d'être, qui est quelque chose qu'a priori on va plutôt penser de manière interne. Mais ça permet de relier l'attention et l'action. Hein, parler de geste, le terme geste, de ce point de vue-là, il est vraiment intéressant. On peut le prendre dans un sens très physique, hein, évidemment, quand on fait un geste, on fait un signe de la main à quelqu'un, on fait un geste, mais on peut aussi le prendre de façon interne, un geste mental, hein, ce qu'on va appeler un geste mental en psychologie. Donc en fait, il est transversal ce terme à l'interne et à l'externe, au comportement et aux fonctions internes. Et donc c'est en ce sens que ça nous semblait intéressant parce que ça décrit précisément la configuration, l'intersection entre le vécu et le corps. Si on reprend des termes issus de la phénoménologie, on a ici donc une intersection qui est intéressante qu'on peut aussi transposer phénoménologiquement. Alors pourquoi ce petit modèle ? Qu'est-ce qui nous permet d'atteindre et qu'est-ce qui nous permet de penser de différent justement par rapport à la phénoménologie ici en l'occurrence essentiellement de Husserl, hein, puisque le terme époqué, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le terme qui décrit vraiment la méthode de la phénoménologie pour Husserl. C'est la méthode de base, hein, c'est le terme que choisit Husserl dès 1913 officiellement donc dans les idées directrices, donc ce texte que j'ai déjà évoqué lors de la première séance pour présenter Husserl. Donc en 1913, Husserl introduit ce terme d'époque, donc autour des paragraphes 31 et suivantes. Et il y voit sa méthode, en fait. Il définit sa méthode à travers donc, cette notion d'époque de manière très sommaire, on peut définir à travers justement cette notion de suspension des préconceptions ou des préjugés. Suspension des préconceptions ou des préjugés. Donc si l'époque consiste à suspendre nos préconceptions et nos préjugés, ce que l'on considère comme allant de soi et ce par rapport à quoi on ne s'interroge pas habituellement, eh bien c'est que il y a dans cet acte, finalement, qu'est l'époque, cet acte interne, qu'est l'époque, il y a un mouvement de prise de recul, de prise de distance. Donc ça c'est la façon dont Husserl le pense. Il parle de mise entre parenthèses dans son ouvrage, dans ce paragraphe. Si vous allez regarder le paragraphe en question, il parle de mise entre parenthèses ou de mise hors circuit. Ce sont les expressions qu'il utilise, qui sont évidemment un peu imagées, mais qui permettent de décrire le processus en question, qui est un processus par lequel, justement, je vais prendre un certain recul. Quand je mets entre parenthèses ou que je mets hors circuit quelque chose, d'une certaine manière, je me détache de ce quelque chose, non, je me détache d'une situation par exemple dans laquelle j'étais incluse, dans laquelle j'étais immergée, absorbée, et je prends un peu de distance. Non. Mettre entre parenthèses, c'est aussi identifier, hein, c'est aussi prendre conscience et se donner la possibilité d'être en relation avec une dimension dans laquelle j'avais tendance à fonctionner sans forcément me poser de questions. On a tous des exemples en tête de ce genre de situation où je suis en train de discuter avec quelqu'un et à un moment donné, eh bien, je prends conscience de la situation. Je ne vais pas forcément m'abstraire totalement de la situation, je vais rester présente, mais je vais être présente tout en ayant conscience que, par exemple, la personne qui est en train de me parler, ça fait associer en moi-même un certain nombre de choses que j'ai pu vivre antérieurement. Je l'entends parler, puis en l'entendant parler, je me rends compte que en fait, elle m'a déjà dit ça, ou bien ça, il y a un sentiment déjà vu. Donc voilà, c'est ce genre de moment où, exemple, hein, c'est juste une indication, il pourrait y avoir beaucoup d'autres exemples en tête, mais c'est un moment où je vais ne plus être complètement immergé dans la situation. Je ne vais pas forcément m'abstraire totalement, c'est-à-dire je ne vais pas disparaître du champ de vision ni de champ de présence intérieure, mais je vais avoir juste ce léger décalage qui va me donner un type de relation et de présence à la situation un peu différent. Donc c'est ça le moment de suspension. Je suspends, ça ne veut pas dire non plus, ou sans être très clair par rapport à cela, ça ne veut pas dire nier, ça ne veut pas dire m'abstraire et disparaître. Mais suspendre, comme un moment où si on a une image très concrète, hein, on suspend du linge dans un jardin, eh bien, le linge, il est un peu en hauteur, hein, c'est ce qui va lui permettre de sécher d'ailleurs. Sinon, s'il était resté en boule dans un fauteuil ou sur une chaise, eh bien, il resterait mouillé trop longtemps. Donc le fait de le suspendre, hein, c'est le fait de lui donner de l'air, hein, de lui permettre de sécher plus rapidement. Bon, c'est pas l'image que retient Husserl, hein, c'est moi qui vous dis ça de façon à donner un peu du sens à cette notion. En tout cas, c'est alléger la présence, mais pour finalement lui donner plus de volume. Donc ce terme d'époké, il est entendu comme cela par Husserl. Je ne reviens pas sur son contexte, son origine grecque chez les sceptiques, chez Sextus Empiricus et Piron, qui est en fait un travail en soi qu'on pourrait faire, un travail, une enquête qu'on pourrait faire en tant que tel. Il y a déjà un certain nombre de travaux là-dessus. Husserl n'ayant pas lui-même analysé de près cette filiation, il est conscient du fait qu'il reprend ce terme à l'héritage sceptique, mais en fait il lui donne sa signification propre dans son projet phénoménologique sans forcément chercher à faire un travail d'historien de la philosophie. Donc je vais pas m'attarder sur ce point maintenant, pour plutôt me focaliser sur la raison pour laquelle nous avons repris ce terme d'époké dans ce schéma, et comment nous avons complexifié, ou en tout cas concrétisé, mis en mouvement en fait la conception husserlienne, en lui donnant un sens beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique, beaucoup plus expérientiel, en essayant vraiment de décrire les gestes qui sont en jeu quand je fais ce travail de mise à distance et de prise de champ finalement par rapport à l'expérience et par rapport à mon état habituel, qui est un état d'absorption la plupart du temps dans une expérience. Cet état d'absorption, Husserl le nomme, lui, l'attitude naturelle. L'attitude naturelle, c'est une attitude, c'est aussi un terme qu'on trouve dans les idées directrices, une attitude où je suis absorbé dans ce que je fais. C'est mon état le plus habituel. Donc en fait, le projet de On Becoming Aware, c'est un projet description beaucoup plus fine des différents gestes d'attention que je déploie quand je procède finalement à cette époquée. Avec la prise de conscience, le constat qu'en réalité Husserl décrit l'époquée à sa façon, comme je l'ai fait, donc de façon assez juste. Les exemples que j'ai pris ne sont pas les siens, et donc sa description reste relativement sommaire, et il nous décrit davantage finalement un résultat qu'un processus. Il nous décrit le résultat de la mise entre parenthèses, le résultat de la mise hors circuit, donc le fait que les choses sont déjà mises entre parenthèses et mises hors circuit, j'ai déjà pris du recul. Je suis dans un état, dans une attitude je ne suis plus dans un état d'absorption. Je suis dans un état que Husserl nomme, je suis dans une attitude que Husserl nomme l'attitude, c'est un grand mot, l'attitude transcendantale, c'est-à-dire une attitude où je suis moi-même déjà à distance et en position de réflexion. Donc du coup, Husserl nous décrit un état de départ, un état de fin. L'état de départ, c'est l'attitude naturelle, l'état de fin, c'est l'attitude transcendantale. Et en fait, le projet de On Becoming Aware, c'est de décrire le processus qui va d'une attitude à l'autre. Qu'est-ce qui se passe d'une attitude à l'autre, hein? Et c'est ça qui est manquant, c'est le chaînon manquant, en fait, dans l'analyse que nous propose Husserl. Et la description plus fine, plus micro, finalement, des processus qui sont en jeu dans le passage d'une attitude à l'autre, eh bien, c'est la clé pour pouvoir, justement, disposer d'une capacité d'effectuation réelle, c'est-à-dire d'une capacité de faire soi-même l'époquée, hein, d'effectuer soi-même finalement ce geste. Parce que si on nous donne juste le début et la fin, bien comme vous le savez dans tous les processus d'apprentissage, on est en grosse difficulté parce qu'on ne sait pas comment faire. On n'a pas le comment. Et même si, comme je l'ai dit déjà dans les séances précédentes, la phénoménologie se targue chez tous les auteurs de décrire justement, de mettre l'accent sur le comment, plutôt que sur le quoi ou le pourquoi, en réalité c'est un peu un vœu pieux, c'est-à-dire que le comment n'est jamais véritablement décrit en tant que tel. Il est exigé, il est indiqué comme étant quelque chose d'essentiel, mais en fait l'exigence n'est pas effectuée. Hein, il est dit mais il n'est pas fait. Hein, donc on n'est pas dans la visée de John Austin, hein, quand dire c'est faire, justement Husserl dit mais il ne fait pas. Donc en réalité l'idée c'était de prendre Husserl le mot, et lui dire, bon, vous dites qu'il faut faire ça, mais comment est-ce qu'on fait vraiment? Donc ces trois gestes attentionnels, eh bien, ils sont là pour essayer de rendre compte, hein, donc c'est une proposition, c'est un modèle, c'est une hypothèse, mais voilà, qu'on a longuement médité, et qu'on a médité aussi sur la base d'un certain nombre justement de contextes expérientiels qui nous ont servi de base, hein. C'est sept contextes que j'ai évoqués, donc, qui sont dans la deuxième partie. Donc c'est depuis un constat empirique et de mise au travail à travers des pratiques, que ce soit la pratique de l'explicitation en psychologie, la pratique des exercices donc méditatifs, la pratique de l'écriture, la pratique analytique. Bon, on a mis en scène toutes sortes de pratiques qui permettent de faire ressortir justement une sorte de dynamique invariante en fait, qui semble être transversale et qui correspond à ces trois gestes attentionnels que sont donc le geste de la suspension, donc que nous avons repris à notre compte mais qu'on décrit plus précisément, le geste de la redirection et le geste de l'accueil. Alors ces trois gestes, ils sont présentés sous forme d'ovale, vous le voyez dans le schéma, et ils sont présentés aussi comme étant comme circulant eux-mêmes l'un en relation avec l'autre. Hein, vous voyez, il y a trois flèches, et ces flèches décrivent en fait un mouvement, décrivent une dynamique. Donc l'idée de ce schéma, c'est de montrer qu'on n'a pas affaire à trois gestes successifs, linéaires, hein, qui se déploieraient l'un après l'autre, ou qui se déploieraient comme étant des conditions l'un de l'autre, sur un mode assez séquentiel finalement, mais qu'on a affaire à trois gestes qui coopèrent ensemble. Hein, l'idée de ce schéma, c'est de prendre donc la notion de coopération à la lettre, coopération au sens littéral, hein, c'est l'idée de opérer ensemble. Opérer ensemble, on a un terme grec aussi qui décrit très bien cela, qui est exactement le décalque du français coopération, qui est le terme synergie. Synergie, donc le sun, c'est l'égal du co, hein, le sun grec, c'est l'égal du co latin ou français, et ergi, hein, ça vient du grec ergon, qui signifie justement l'œuvre ou le travail. Donc œuvrer ensemble, hein, coopérer, eh bien, c'est la vertu finalement de cette dynamique où circulent ces trois gestes les uns en relation avec les autres. Donc pour le dire de façon un peu plus précise concernant ces trois gestes attentionnels, eh bien, donc, on a un geste de suspension qui est un geste qui correspond grosso modo au geste husserlien, un geste de prise de distance, de mise en perspective, qui est finalement le geste qu'on réactive en permanence à chaque moment où on voit émerger une dimension qui nous fait sortir du cadre et qui nous permet de rester présent d'une autre façon. Mais ce seul geste ne suffit pas et il doit être mis en relation et complété et pensé avec un geste de redirection qui est un geste qui va décrire plus précisément finalement ce qui se passe quand il y a ce mouvement de prise de recul. Alors, ce geste de redirection, en fait, il prend appui sur le constat précisément de l'expérience dans laquelle je suis la plupart du temps quand je suis absorbée. Je vais prendre un exemple, hein, qui est un exemple qu'on peut tous avoir puisqu'on est dans des activités très souvent de lecture de textes dans la pratique de la philosophie. Donc, je suis en train de lire un extrait, par exemple, quand Bastien était en train de lire le texte de Francisco Varela, il a eu sans doute des moments, j'ai un moment où je suis immergé dans le texte. Alors, je suis totalement dans le texte, je ne fais plus attention à rien d'autre que à ce que je suis en train de lire et ce que j'essaye de comprendre. Hein. Donc, par exemple, le point très difficile concernant le connexionnisme. Donc je suis vraiment concentré, tendu, totalement à ma lecture. Et à ce moment-là, évidemment, c'est la relation donc au livre, à l'objet et au sens évidemment qui est véhiculé dans le livre qui va être déterminante. Et c'est ça qui va aiguiller mon attention. Mon attention va être tout entière dirigée vers cela. Et du coup, je ne suis évidemment pas présente à moi-même à ce moment-là, paradoxalement. Je suis très concentrée vers l'objet, vers ce que je suis en train de lire, et le sens qu'il a, mais je ne suis pas en relation avec moi-même. Et donc le processus de se rediriger, eh bien, c'est un processus par lequel je vais tourner mon attention de l'objet vers le vécu. C'est-à-dire tourner mon attention va se retourner on va se rediriger vers ce que je suis en train de vivre au moment où je lis. Donc ce vécu, la manière dont je suis en relation avec le sens que véhicule ce livre, eh bien ça peut prendre différentes formes. Par exemple, dans le cas de Bastien ou dans mon cas, si je suis en train de lire ce passage sur le connexionnisme et que je me débat avec, je ne comprends pas ce qui est en jeu ou j'ai du mal à comprendre, eh bien ce qui va correspondre à cette redirection du regard que je porte à ce moment-là, eh bien ça va être un vécu je vais être troublée, je vais être en difficulté, je vais me poser des questions sur le sens même que ça a de lire ce livre à ce moment-là. Donc vous voyez, mon retour sur moi-même, il va être un retour sur ma manière de lire ou sur ce qui se passe en moi au moment où je suis en train de lire. Donc dans le processus même donc, de ce geste attentionnel, vous voyez qu'on est dans un processus qui ne va pas de soi, puisque l'état standard dans lequel je suis, c'est un état de concentration vers le sens de ce qui est en jeu. Donc vous voyez qu'on fait émerger un deuxième niveau, qui est le niveau de relation à moi-même et de vécu, hein, de qu'est-ce que je suis en train de vivre au moment où je lis. Donc on change de niveau, et en même temps ce niveau il est totalement intégré au premier, il est totalement intégré à l'objet. Mais très souvent il est implicite, très souvent il n'apparaît pas en tant que tel. Donc c'est ça le mouvement de redirection, et c'est un mouvement évidemment qui est aussi un mouvement de prise de conscience. Et vous voyez qu'il permet de préciser beaucoup plus concrètement ce qui est en jeu dans la suspension, dans le mouvement simplement de prise de distance ou de prise de recul. On comprend mieux ce qui est en train de se passer en moi-même à ce moment-là, hein, le rapport à ce que je suis en train de vivre, plus précisément. Et puis ce geste attentionnel, eh bien, il se relie aussi à un autre type de geste, qui est un geste qu'on a nommé accueillir. Et ce geste d'accueillir ou de lâcher prise, eh bien, c'est un geste qui est moins strictement volontaire ou délibéré que le mouvement de se rediriger. Hein, donc le moment où je vois apparaître donc, ce que je suis en train de vivre, ma manière de lire en réalité, ma manière, qu'est-ce qui m'arrive au moment où je suis en train de lire. Mais c'est plus un geste où je vais faire droit tout simplement à ce qui émerge, à ce qui apparaît à ce moment-là. Donc accueillir, lâcher prise, donc c'est un geste involontaire, c'est un geste alors paradoxalement involontaire, parce qu'en réalité il est présent pour moi tout en étant quelque chose que je reçois. Donc c'est une forme d'activité qui n'est pas du contrôle et qui est plus proche d'une forme de passivité, même si c'est une passivité active. Et par exemple, dans cette expérience de la lecture et de ma relation à moi-même au moment où je lis, la perturbation que je peux éprouver quand j'ai du mal à comprendre ce qui est en jeu, qui peut aussi correspondre à une forme de perplexité qui émerge à ce moment-là, elle peut se traduire par un moment où je vais moi-même m'ouvrir à ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire ne pas forcément être dans la volonté de comprendre, mais laisser au fond apparaître ce mouvement de trouble, le laisser apparaître pour lui-même. Le penser dans sa qualité, enfin le faire simplement émerger dans sa qualité propre de trouble, et ne pas chercher à le contrôler, ne pas chercher à trouver une solution, par exemple, ne pas chercher à me dire je suis troublée par ce que je ne comprends pas, ou c'est très très ennuyeux, mais c'est pas grave, je vais laisser de côté et puis j'y reviendrai plus tard. Ça c'est déjà l'esquisse d'une solution, c'est déjà l'esquisse d'une rationalisation d'un certain point de vue. Donc le processus de lâcher prise, c'est plus un processus où je vais simplement prendre acte du fait que voilà, ça m'échappe, ça je ne comprends pas. Et par exemple, le constat de Bastien, hein, excusez-moi Bastien, je vous prends un peu comme cobaye, le constat de Bastien, c'était je dois avouer que j'ai pas compris. Franchement, c'était un très beau moment, j'ai trouvé, enfin dans votre exposé également. Quand vous faisiez état, simplement, preniez acte du fait que vous n'aviez pas forcément tout compris avec cette notion. Donc là, on est dans un moment d'accueil, un moment de lâcher prise. Et c'est un processus qui peut émerger au moment même où je suis troublée, ou qui peut émerger rétrospectivement, hein, mais qui fait partie, en fait, de l'expérience, qui fait partie, justement, de la confrontation avec la réalité même de cette activité de comprendre. Donc le cycle de base, pour revenir là-dessus, et puis je vois que l'heure tourne, donc on va pas trop tarder, le cycle de base, c'est ce dépliement, si vous voulez, des différents gestes internes, et qui sont en même temps des gestes corporels et émotionnels, hein, parce que ça me, c'est toute la réalité de ma personne qui est en jeu, c'est pas simplement mon mental. Donc ces différents gestes qui coexistent en moi-même au moment où je suis reliée à une expérience donnée. Hein, donc c'est une façon d'essayer d'écrire plus finement, finalement, ce qui me relie à moi-même quand je réalise telle ou telle expérience. Et donc de faire ressortir ces dimensions, de les déplier pour décrire justement ces différents micro-processus qui se déploient en même temps ou qui peuvent se déployer l'un après l'autre, mais qui peuvent circuler finalement l'un avec l'autre et qui du coup ne sont pas linéaires, qui sont plutôt circulaires. C'est la raison pour laquelle on a donc mis en relation ces différents cercles, ces différents ovales, pour montrer comment ils coexistent et comment ils s'alimentent l'un l'autre, et comment ils permettent de décrire de manière plus complexe et plus fine les différents processus en jeu dans la relation que j'ai, avec ma propre expérience. Donc voilà, ça c'est vraiment le noyau du projet pratique de la phénoménologie. Revenir à l'expérience, la décrire plus finement, dans sa singularité. Donc là j'ai pris un exemple, vous voyez, j'ai vraiment essayé de décrire quelque chose d'assez précis. On pourrait être beaucoup plus précis que cela, et bien sûr il faudrait affiner la description de cette expérience dans la conscience même et dans la présence que j'ai à cette expérience. Donc je laisse de côté les éléments que décrit aussi, de son côté Adrien, concernant la mise en pratique sociale et intersubjective. Donc le schéma première, deuxième, troisième personne, qui serait intéressant à décrire en lui-même, mais voilà, vu le temps, on va s'arrêter là. Ou tout ce qui relève du processus de validation. Donc ça, c'est des éléments qui permettent de donner une scientificité à cette mise en pratique, de ne pas la reconduire finalement à une forme de vision trop subjective ou trop privée d'un vécu individuel, mais de montrer qu'en fait, il y a une scientificité de ce travail et de cette méthodologie. Et qu'elle fait partie en fait de tout un travail plus ample qui se déploie depuis une vingtaine d'années et qui se relie à ce qu'on appelle les méthodes en première personne, donc des méthodes de description d'un vécu singulier, qui a permis justement le déploiement de ce que on a appelé aussi donc la microphénoménologie. Donc évidemment aujourd'hui je vais du coup en fait m'en tenir là, hein, je ne vais pas déployer ce passage à la microphénoménologie. Donc ce sera plutôt l'objet de la première partie de notre séance de la semaine prochaine. Et du coup je reviendrai aussi sur cette dimension scientifique de la phénoménologie pratique, sur son exigence en fait de rigueur, hein. Sur son épistémologie d'une certaine façon, parce que ça nous permettra de mieux comprendre en fait dans quel cadre s'inscrit la microphénoménologie et quelle troisième dimension de la phénoménologie elle permet de faire apparaître, sachant que c'est une dimension qui n'est pas en opposition avec la phénoménologie pratique, c'est plutôt une spécification, un affinement, et c'est un peu comme le rapport entre le connexionnisme et l'énaction pour Varela. C'est pas une opposition ou un passage à autre chose, c'est plutôt un approfondissement, hein. Donc de la phénoménologie pratique à la microphénoménologie, on est dans un processus de précision et d'approfondissement. Voilà, donc j'espère que ça vous a un tout petit peu éclairé sur ce développement de la phénoménologie, et évidemment le fait qu'elle répond, cette phénoménologie pratique, à un besoin d'ajustement de la phénoménologie par rapport à ce que les sciences cognitives ont elles-mêmes développé et fait émerger en termes de nouveaux paradigmes. Hein, donc dans la séance précédente, j'avais évoqué deux mouvements, le mouvement de la greffe phénoménologique aux sciences cognitives, donc avec les deux postures de Varela et de Dreyfus, et puis le mouvement miroir, le mouvement inverse mais complémentaire, qui était la façon dont la phénoménologie elle-même s'ajuste à cette mise en mouvement finalement des sciences cognitives et cette nécessité de se relier au corps et au contexte, notamment dans le cas du connexionnisme et de l'inaction. Donc vous voyez, on a deux mouvements parallèles, et là c'est ce mouvement d'ajustement de la phénoménologie que j'ai essayé de décrire à travers le tournant pratique de la phénoménologie, et dont on verra l'approfondissement et l'affinement avec la microphénoménologie en début de semaine prochaine. en début de séance prochaine, pardon. Je commence à fatiguer. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Est-ce que vous, éventuellement, vous avez des questions, un point qu'on peut, des points que vous voudriez qu'on évoque encore? Il est même un petit peu tard déjà, mais on peut encore en prendre 5 minutes si vous voulez. Voilà, dites-moi simplement s'il y a des choses que vous voulez, qui ne sont pas claires ou une question que vous auriez par rapport à ce que je viens de vous proposer. N'hésitez pas, c'est peut-être un petit peu trop rapide comme réaction. Hein. Merci Annick, merci pour votre commentaire. Ça, finalement, ça, c'est toujours gratifiant d'avoir des retours sympathiques et qui montrent votre intérêt. Très bien. Et voilà, je vois que certains sont en train d'écrire, Chinzia et Loïc. Donc j'attends leur retour. Et alors oui, Loïc, l'étape de la suspension, c'est une prise de recul. Oui, c'est une prise de recul. Un allègement de présence. Alors bon, ça c'est ma façon à moi de commenter. Un allègement de présence par rapport à une présence absorbée, par rapport à une présence, vous voyez, où on est collé à l'objet. Si vous prenez un autre contexte, par exemple, si vous apprenez à conduire, hein, vous êtes en train de... Excusez-moi, Chinzia, en fait, je suis en train de penser que ce n'est pas forcément un très bon exemple pour vous. Bon, vous essayez vous êtes en train d'apprendre à conduire et du coup, vous êtes très, très concentré. Vous avez les mains crispées sur le volant parce que, voilà, vous avez peur de faire des erreurs, de vous tromper. Donc là, je dirais que vous êtes collé à la réalité de ce que vous êtes en train de faire. À un moment donné, vous allez acquérir plus de latitude et d'aisance dans l'apprentissage de la conduite. Et donc, du coup, vous allez être allégé dans votre présence. Vous n'allez pas avoir, par exemple, comment dire, vous n'allez pas être collé, vous n'allez pas être centré, crispé, tendu. Mais votre mode de relation au volant, à la voiture, votre façon même d'être assise, vous allez vous sentir plus, il y aurait plus de confort. Et on peut à ce moment-là parler d'une forme d'allègement de présence. Ça ne veut pas dire que vous allez être absente à la situation. Au contraire, vous allez être plus présent à la situation, mais autrement. Oui, Chinzia, je pense que ça peut vous donner du grain à moudre, effectivement. Hein. Alors, demandez, oui, Bastien, peut-être vous pourriez. Alors, Loïc, est-ce que vous comprenez un peu mieux ? D'accord, merci beaucoup. Donc, Bastien, si vous avez un texte rédigé, je ne vois pas du tout d'inconvénient de mon côté à ce que ce texte circule. Au contraire, je pense que ça pourrait aider tout le monde, ce serait très bien. Après, c'est vous qui êtes, c'est vous qui êtes seul maître à bord par rapport à cela. Donc, vous pouvez utiliser. La liste de diffusion plutôt nominale plutôt que la liste que j'utilise quand j'envoie le lien virtuel, hein, si vous voulez. En fait, vous avez peut-être vu dans mes messages, quand je vous envoie les audios, enfin je ne le fais plus maintenant, mais au début quand j'envoyais les audios, j'envoyais aux étudiants inscrits. Par contre, quand j'envoie le lien virtuel, je l'envoie à tout le monde parce que je me dis que peut-être certains étudiants vont finalement rattraper, vont se réinscrire après. D'accord, très bien. Très bien. Bon, je pense que c'est un exemple parlant, même si vous êtes directement concerné par la situation, et de façon pas forcément très simple, Chinzia, mais voilà. De toute façon, l'audio, indépendamment même du texte écrit de Bastien, l'audio est disponible. En tout cas, moi, je vais le mettre sur le site de l'ERIAC, donc vous aurez la prise de parole de Bastien en audio également, Chinzia. Hein. Voilà, et Bastien, je ne sais pas s'il est encore là, il est peut-être déjà parti, s'il est toujours là. Voyez si vous voulez transmettre votre texte, Bastien, je pense que ce serait vraiment très bien. Voilà, sinon, quoi d'autre? Donc, Wally est en train d'écrire quelque chose. Voilà, si vous voulez, on peut, en tout début de séance, revenir un tout petit peu sur ce que j'ai essayé de mettre en place là, lors du dernier temps du cours. On peut reprendre un petit peu de temps pour ça, avant que je fasse une sorte de présentation un peu un peu préliminaires de la microphénoménologie. Bon, j'ai bien conscience que c'est des étapes un peu rapides, hein. C'est vrai que chaque étape en soi pourrait faire l'objet de 6 séances de séminaire. Donc on pourrait vraiment déplier tout cela de manière beaucoup plus approfondie. L'idée, c'est de vous donner un peu des pistes, hein, de vous ouvrir à des problématiques et à des questions. Voilà, j'ai bien l'intention l'année prochaine, au deuxième semestre, de continuer sur ce terrain, de toute façon. De même que premier semestre l'année prochaine, je continuerai sur la schizophrénie. Parce que je trouve que c'est dommage de pas approfondir davantage. On a un peu une sorte de cadrage, de cartographie là, qui est mise en place. Et donc du coup, j'ai l'intention de continuer l'année prochaine. Donc pour ceux parmi vous qui êtes en Master 1, ben, en Master 2, vous allez pouvoir en bénéficier. Pour ceux qui sont en Master 2, ben, si vous avez envie de revenir l'année prochaine, ça peut être bien. Et puis pour les étudiants qui sont en L3 et qui vont arriver en Master 1, ben, ils prendront le train en marche. Et c'est pas très grave, en fait. Je ferai des rappels en même temps. Donc voilà. Donc je vais couper l'enregistrement. Je pense que... Voilà.